Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Elena Vaccarossa, qui est Global E-Commerce Customer Experience Director chez Schneider Electric. Bonjour Elena.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab. Donc on va parler de transfo digital, d'e-commerce. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à ce job chez Schneider?
Bien sûr, tout simplement répondre à une annonce, je veux dire, une annonce de travail. Mais au fait, j'étais enchantée par une rencontre. Mm-hmm. J'étais aux Experience Days de Microsoft et j'ai vu sur scène Christel Edman, mm-hmm. qui à l'époque était PDG de Schneider France. Et je me suis dit, une société donc, cotée au CAC 40 d'Industrial B2B, une femme à la tête, ça m'intéresse. Et donc, c'est là que j'ai commencé à suivre. J'ai regardé les annonces et donc, je suis ensuite rentrée il y a 5 ans.
Et donc, avant, tu étais déjà dans des métiers du collaboratif? En quelques mots, quel type d'activité
tu étais? Oui, je suis rentrée pour diriger un programme de transformation digitale pour mm-hmm. Schneider France qui s'adressait à la clientèle diffuse, notamment les électriciens. Et donc, je suis arrivée pour définir et mettre en place une nouvelle couverture digitale et commerciale mm-hmm. pour cette clientèle. Et donc, d'accord. en quelques mots, donc, on a défini, donc, j'ai mis en place un groupe Facebook pour mm-hmm. les électriciens. Et aujourd'hui, on a plus de 25 000 électriciens sur ce groupe avec un taux d'engagement très élevé. Avec okay. aussi 95% du contenu qui est posté directement par les électriciens. Et c'est devenu la communauté online de référence. Et c'est devenu aussi une référence au sein de Schneider.
Parfait. Oui. Alors pour Schneider, pour un peu mieux les connaître, qui sont sur le métier de l'électricité, tu peux nous redire un peu quel style de, oui. de prestations ils font?
Alors effectivement, en fait, Schneider, c'est une société très large. C'est une société géniale déjà, parce qu'elle est portée vers l'avenir. Qu'est-ce que fait Schneider? Donc, elle fait des interrupteurs aux tables électriques que tu peux trouver chez toi, mais aussi donc, de l'industrial automation aux data centers, aux centrales électriques. Donc, mmh. elle a vraiment une vaste gamme de produits.
De services. Et c'est particulier et entreprise, les deux.
Oui, tout à fait. C'est surtout B2B et B2B. Aussi résidentiel. Donc, on parle de résidentiel, tertiaire et industrie. Et puis, surtout, donc, il y a beaucoup de produits hardware. Mais on est en train vraiment en fait, d'évoluer sur la partie software parce qu'on rajoute de l'intelligence à nos produits. Parfait. Pour pouvoir les contrôler à travers des softwares.
Et donc, c'est un des leaders en France, Schneider, c'est une des
oui.
sociétés.
Oui, oui. Et c'est un leader à l'international.
Comment tu le distingues d'EDF ou de General Electric, d'autres groupes? Qu'est-ce qui caractérise
nous,
vraiment Schneider?
Nous, on ne produit pas l'électricité. Mais au fait, d'ailleurs, c'est notre mission. On dit que c'est donner au fait, les moyens pour tirer le mieux de l'énergie et des ressources.
D'accord.
Pour pouvoir au fait, continuer à progresser dans le respect du development, sustainable development.
D'accord, donc, du développement durable.
Exactement. Okay. Et donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens qu'on rajoute aujourd'hui donc, de l'intelligence. Parce que si on n'a pas la data, on ne peut pas contrôler. Quand okay. on connaît ou quand on mesure, on peut ensuite donc, prendre des actions pour pouvoir mieux gérer, mieux performer, améliorer, stopper, etc. Et donc, c'est dans ce sens qu'on contribue dans l'électrification et aussi dans la décarbonisation.
D'accord. Donc, tu disais la différence, c'est que c'est moins la production comme EDF, c'est plus la distribution de l'électricité.
Oui, et la meilleure gestion.
Meilleure oui. gestion, avec ouais. un aspect data très fort et ce côté développement
software.
Durable qui est software, donc qui est un peu plus poussé sur le soft. Ok. Et donc, toi, tu es arrivé donc, pour le global e-commerce en customer experience et tu étais spécifiquement sur ce sujet des électriciens dont tu as parlé ?
Alors, je suis arrivée avant, il y a 5 ans, mm-hmm. Sur le rôle donc, de business development 2.0 sur les électriciens. Et il y a 2 ans, chez la partie e-commerce au niveau global. Et donc, je rejoins l'équipe globale des e-commerce sur la définition de l'expérience pour nos utilisateurs, pour nos clients.
D'accord. OK. Donc, e-commerce, ça veut dire qu'il y a parce que tu as la vente physique, j'imagine, et la vente via le site e-commerce, il y a les deux.
Tout à fait. Au fait, oui, tout à fait. Même au niveau commerce, déjà, on a 3 modèles en place. Donc, ce qu'on appelle un indirect, c'est-à-dire vendre à travers les plateformes e-shop de nos distributeurs, de nos partenaires et pour players. Mm-hmm. Et ensuite, donc, j'étais vraiment à l'origine des shops B2C. Donc, on a lancé des shops e-shop B2C pour adresser les personnes comme toi et moi. Et ensuite aussi des marketplaces. Donc, okay. Direct to customer. Et ça, c'était une grosse révolution pour Schneider.
C'est assez rare. Il y en a peu qui sont allés sur l'aspect pur e-commerce, sur l'électricité, non ?
Il y en a quelques-uns, mais oui, effectivement, en fait, c'est un choix
stratégique.
Et c'est un choix stratégique parce que l'enjeu, c'est que dans ce domaine, dans cet univers, notamment surtout sur la partie résidentielle, il y a des nouvelles technologies et aussi de la concurrence de pays en voie de développement, émergent plutôt, qui vient un peu basculer ce marché. Mm-hmm. Et donc, en fait, la partie e-commerce a été vraiment en fait, un facteur important et stratégique. Exactement.
Et ça représente une grosse partie des revenus e-commerce versus physique aujourd'hui, j'imagine.
Oui,
c'est important.
Oui, c'est important.
Et alors, donc ça veut dire que vous êtes une société, il y a tout un département qui est plus e-commerce et digital. C'est une grande équipe où tu fais partie ? Il y a combien de personnes qui bossent là-dedans ?
Alors, non, au contraire, au fait. La force et la stratégie, c'était donc de lancer, d'être un peu comme un start-up.
Okay.
Pour pouvoir travailler de façon agile et pouvoir se lancer. Puis là, maintenant, on grandit, il faut grandir, il faut intégrer la matrice. Donc, Schneider, c'est une société assez large et complexe. Et donc, il y a une matrice assez importante. Il faut rentrer dans la matrice. Et c'est dans le rôle actuel et même dans le rôle avant, il y a une composante très importante de transformation, évangélisation de la partie digitale.
D'accord.
Donc, ça, c'est une façon aussi de transformer et amener l'organisation avec soi.
Donc, toi, tu es aussi dans cette partie transformation. Parce qu'on avait reçu quelqu'un de chez AG2R, la mondiale, qui était aussi Sylvain, oui. Qui était dans la partie direction de la transformation. Et donc, ça, on va peut-être parler de ce sujet. Je sais que tu as beaucoup travaillé l'aspect outil collaboratif. Ça, tu peux en parler de ce que tu as mis en place dans notre entreprise ?
Oui, au fait, c'est donc des outils qu'on utilise pour travailler. Alors déjà, juste pour donner un peu de contexte, rien que dans l'équipe de Enablers e-commerce dont je fais partie, il y a 14 nationalités différentes.
Ok.
Donc, on n'est pas une grosse équipe, il y a 14 nationalités différentes. On est tous, au fait, situés à l'international. Aussi, un des challenges, c'est vraiment, en fait... On travaille avec, il y a des hubs Hong Kong, Dubaï, Amsterdam, puis bon, il y a le siège à Paris et les États-Unis. Donc rien que ça, il faut trouver des modes collaboratifs pour travailler. Et donc, forcément, on utilise Teams, on utilise donc aussi des messageries qui existent, SharePoint. Mais sur la partie UX spécifique et pour brainstormer, on a un outil qui s'appelle Miroboard, mais il y a différentes sortes, qui est vraiment en fait Visual Design Collaborative Tool. Et aussi là-dedans, on l'utilise pour brainstormer, pour tracer des Customer Journey Mapping, donc le parcours client, mais aussi pour définir le futur flow qui doit apparaître sur un e-shop ou un marketplace, et aussi pour travailler différentes landing pages, la structure des pages et le contenu.
D'accord.
Et après, avec les UX designers, on utilise Figma, qui est un outil exprès pour faire des mock-ups, des prototypes. Et okay. Là aussi, on continue, en fait, c'est un outil collaboratif aussi, en plus d'être un outil de création.
Tout ça, c'est sur le schneiderelectric.com. C'est sur lequel website que tu fais tout ça ?
Alors, c'est des outils qu'on utilise pour créer, au fait, le résultat, c'est l'expérience que c'est sur
utilisateur.
Shop.ci.com.
Et alors, les clés, on va faire un petit tuto pour les auditeurs. Les clés que tu donnes, toi, pour, sur l'UX, pour améliorer toute l'ergonomie d'une expérience utilisateur. Quelles sont un peu tes convictions là-dessus, toi ?
Alors, mes convictions, c'est, j'en ai deux. Commencer, au fait, être du client, être customer-centric. C'est le client qui détient la vérité et être data-driven. Donc ça, c'est deux éléments clés. En particulier pour l'UX, l'UI, parce que tout le monde a une opinion. Non, mais le bouton doit être là. Non, mais la page ne doit pas être comme si. Tout le monde a une opinion, tout le monde a un avis, mais l'avis qui compte, c'est celui du client.
Du client. Donc du product owner. C'est souvent le product owner dans la tech qui symbolise cette voix.
Bah, au fait, dans ce cas, je suis moins en fait, la voix du client et j'utilise toutes les sources à disposition pour récolter au fait,
de la donnée
quelles sont,
et
oui,
des infos.
Les problématiques du client, quels sont en fait, les breaking points. Au fait, pour dire comment on fonctionne, donc on part du client, on identifie quelles sont ses majeures problématiques aujourd'hui pour pouvoir acheter par exemple les produits domotiques, la smart home qu'on vend sur nos shops B2C et quelles sont ses top priorités au fait, critères clés et on définit ensuite l'expérience, le flow et les features, les fonctionnalités de, qui doivent être dans le site pour pouvoir répondre à cela. Et on lance des MVP et ensuite on continue à améliorer.
Et on fait du test and learn, toujours du test and learn.
Ouais,
c'est vraiment une start-up dans le groupe qui s'est créée. Ce qui n'est pas si simple au sein d'un groupe de faire vivre une vraie cellule innovation. Peut-être tu peux parler des challenges là-dessus ou...
Tout à fait. Alors, je tiens à préciser que je parle à mon nom, je ne parle pas...
Oui, non, bien sûr, mais tu es libre. C'est un podcast, donc tu es à... L'idée, nous, c'est qu'on s'adapte toujours au ton et à ce que peut dire l'invité. Hein. Il y a des choses qu'il peut dire, d'autres qu'il ne peut pas dire. Mais en général, il y a quand même une liberté de ton, tout en étant respectueux, bien sûr, de son entreprise. Ça, c'est sûr.
Mais en tout cas, je suis très attachée. C'est une très belle société à Schneider, très bienveillante. Par contre, c'est une société donc, française et l'industrie française. Donc, c'est ancré en fait, dans des habitudes, comment dire, pas tout à fait agiles et un peu disruptives.
C'est deux mondes qui se rencontrent. C'est le monde de l'industrie française et le monde plus de l'innovation, de la tech.
Exactement. Et aussi, en fait, il y a une matrice importante. Il y a beaucoup de stakeholders qu'il faut embarquer. Et il faut...
Décideurs. Lesquels, par exemple, tu dois embarquer dans tout ton projet ?
Sur mon projet, il y a les différents pays. Il y a donc tous les VP, différents en fait, directions, que ce soit donc, la partie commerce locale, mais aussi le business résidentiel local, mais aussi la partie Marcom. Donc, il y a vraiment en fait, différents acteurs et souvent, ça peut devenir vite fait, comment dire, complexe et long. De pouvoir embarquer et pouvoir expliquer
bien sûr.
Cela. C'est pour ça aussi qu'on a défini une approche, on a créé des playbooks, on a une gouvernance et on explique quelle est la gouvernance. Et surtout, encore une fois, quand on a des évidences, on a des analytics, on a de la data et quand on peut être factuel d'expliquer le pourquoi et le comment, c'est toujours plus facile.
Okay. Alors, je crois que tu as beaucoup étudié le sujet du people-based marketing. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant sur comment les gens un peu co-créent au niveau du marketing. Moi, c'est ce que m'avait appris notamment Airbnb, surtout les hôtes de la marque qui deviennent co-créateurs du marketing. Donc, c'est assez moderne de penser comme ça. Ouais. Comment tu peux le définir et de raconter les cas que tu as fait dans ce sens ?
Alors oui, donc c'était donc pour donner le contexte, donc le people-based marketing a été ma thèse, mon grand mémoire lors de mon MBA en marketing digital à l'Institut Léonard de Vinci. Et au fait, c'est très intéressant parce que le people-based marketing c'est la technique de digital pour adresser et personnaliser la publicité digitale. De façon individuelle, one-to-one communication. Et c'est un peu le, comment dire, l'Eldorado que tout le monde, tous les acteurs veulent attendre. Et c'était parti avec un pari avec un directeur de Facebook. Mm-hmm. Parce que people-based marketing, c'est vraiment Facebook qui le fait. Les autres, ils font de l'account-based marketing. Et effectivement, en fait, c'est de pouvoir, si on va résumer, pouvoir récolter, au fait, tous les, on va dire, les signaux qu'un utilisateur online va laisser, okay. pouvoir les récolter, pouvoir les réconcilier et pouvoir donc adresser une communication adaptée à toi, Alexis, à moi, Elena, et à l'autre personne.
Donc, c'est la personnalisation.
Exactement. C'est le paradoxe de l'infiniment grand d'Internet et de la data et l'infiniment petit de pouvoir adresser la personne spécifique.
D'accord. Alors, sur le cas précis des électriciens, tu peux nous dire un peu ce que tu as mis en place en termes d'action, parce que je sais que tu as fait finalement une communication très affinitaire, je dirais, envers eux. Comment tu t'y es pris là-dessus?
Alors, bon, on est parti toujours de la persona, du persona qu'on allait adresser pour comprendre exactement son quotidien, ses besoins et où il était online, quelles étaient ses habitudes. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un là où il est déjà plutôt que... Okay. Le bouger. Et donc, on a identifié aussi à travers du social listening qu'il était présent, enfin, les électriciens, au moins en France, ils étaient présents sur Facebook quand ils avaient une pause, même à la pause déjeuner. Mmh. Et aussi qu'ils avaient un besoin de se retrouver, communiquer entre eux. Parce que finalement, en fait, l'électricien, c'est un travail individuel.
Okay.
Et donc, on a comblé ce besoin. Donc, mais avec l'art et les règles, la méthodologie, parce qu'on ne lance pas un groupe.
Donc, tu as créé un groupe spécifique dédié aux électriciens. Oui, comment il s'appelait d'ailleurs?
Fier d'être électricien.
Fier d'être électricien.
Oui, et en fait, bien sûr, donc, avec tout ce qu'il faut, parce que déjà chez Shell, je m'occupais de...
Mais By Schneider, tu avais quand même la marque était quand même présente directement.
Oui, 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 mais vraiment, en fait, ils discutent librement, c'est vraiment en fait,
oui,
leur espace
online. Oui, comme un forum d'échange.
Exactement,
quoi.
Exactement, d'entraide, de partage d'informations, de partage de projets. Et bien sûr, nous, on partage aussi des informations, des formations, des lancements de nouveaux produits, aussi de promotion.
Et tu l'as lancé, tu l'as monté à 30 000. Hein. Au début, c'était...
C'était zéro.
Zéro.
Et maintenant, c'est plus de 25 000. Et bravo. Donc, avec des taux... Merci.
Et comment tu as monté ça? Tu avais une équipe Community Management ou tu as tout fait toute seule?
J'ai créé donc, des postes spécifiques.
C'est du travail, ça, quand même. C'est beaucoup tout d'animer, le rédactionnel et tout ça.
Exactement.
Ça te prenait combien de temps de ta semaine?
Ah, ça prenait combien de temps la semaine? J'ai travaillé avec des équipes Marcom et on travaillait avec des agences et on a eu, enfin, j'ai créé des rôles exprès, comment ça prenait de ma semaine, parce que je m'occupais aussi d'autres projets entre-temps, toujours pour les électriciens. Je ne sais pas, en fait, au début, au moins la moitié de ma semaine.
D'accord. Et tout ça, ça a pu développer du business? Après, ils étaient redirigés sur le site de Schneider et tout ça?
Oui, et sur l'application.
L'application.
Sur l'application, pareil que j'ai travaillé spécifique pour les besoins de cette population.
Donc toi, tu crois beaucoup plus... Le social media était plus intéressant que de la vidéo ou ça a été vraiment le forum social media ou même de la pub ciblée. Tu crois beaucoup plus à ça, toi?
Alors, encore une fois, en fait, ça dépend quel est le besoin du client et où ils sont. Donc,
là, tu l'as dit, ils avaient besoin de se regrouper.
Exactement,
donc, d'échanger, recréer une communauté.
De dire qu'un nouveau électricien, il fait un chantier, il a besoin de montrer comment il a fait et être, entre guillemets, conforté ou recevoir les conseils des plus anciens. Et donc,
Après, effectivement, ça s'adapte à chaque cible. Il y a un autre type de métier, sera plus sur Instagram, du TikTok.
Exactement, en fait, parce que pour tout dire, la petite anecdote, donc, c'était vraiment la petite révolution quand j'ai proposé cela. Et donc, j'étais beaucoup challengée.
Ils n'y croyaient pas forcément, c'est ça?
Non. Ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas y aller. Et puis aussi, j'ai dit, mais il y a la data, en fait, qui nous montre qu'ils sont là. Allons-y donc avec un pilote de 3 mois et on peut valider ou pas à la suite.
Okay.
Mais je m'étais déjà occupée au fait de social listening chez Shell.
Ah, tu connais bien ce sujet.
Pour 4 marques. Et là aussi, chez Shell, c'était une autre problématique. Au fait, on avait identifié qu'il y avait des discussions online sur les huiles lubrifiantes pour les voitures dans des forums. Et donc, c'était un autre contexte, mais donc encore une fois, il faut écouter le client, voir où il est et comprendre son besoin, et on trouve ensuite la meilleure réponse.
Et après, c'était du gros hacking. Comment tu as fait monter la communauté? Tu avais des ambassadeurs que tu as identifiés, parce qu'il faut faire monter une communauté, c'est pas si facile.
Et exactement. Bah, déjà, en fait, avec, tu l'as dit, gros hacking, avec de la publicité ciblée, avec du contenu à forte valeur ajoutée, avec des promotions, avec des partenariats. Et
c'est quand même un budget. Il fallait quand même un beau budget, des ressources pour faire tout ça.
Oui.
Alors nous, on arrive à la dernière partie du podcast. Nous, on aime bien, on est dans le Brain Entertainment Lab, on aime bien tout ce qui est création de contenu. Sur quel type de format, toi, tu crois en termes de vidéos, interactives, content pour le social media, sur quoi, qu'est-ce que tu trouves intéressant aujourd'hui qui se développe?
Avec les chiffres, j'ai regardé les chiffres justement, en fait, des vidéos sur la consommation de YouTube et Instagram, donc forcément la vidéo.
Oui.
Les vidéos courtes, moi je crois beaucoup
dans Snack content, à faire à 60 secondes, à 30 secondes.
Même à 30 secondes, ouais. Et parfois même plus courtes. Okay. Parce que, puis, encore une fois, ça dépend qui on veut cibler, avec quel objectif. Les jeunes, il faut que ce soit court et rapide, ils sont habitués à TikTok. Dans notre métier chez Schneider Electric, on fait beaucoup aussi des trainings, des formations. C'est des vidéos, mais c'est des vidéos un peu plus longues. Pas très longue, mais ça peut être des vidéos de 4 minutes. Donc moi, je crois beaucoup aussi, je crois beaucoup dans la vidéo.
Une vidéo, et après, il y a différents types de formats.
Exactement.
Le snack content, les vidéos, oui. Case studies. Sur social, quand même, les aspects ambassadeurs, comment tu vois tout cet aspect avec l'influence digitale? Tout ça, c'est en train d'être quand même pas mal retravaillé. Maintenant, il y a plus des ambassadeurs.
Moi, je crois,
sur quoi tu crois, toi?
J'y crois, et je crois aussi surtout au peer-to-peer.
Spécialisation, les pairs.
Oui,
quoi.
Au fait, les pairs, oui.
Voilà.
En général, en fait, on croit beaucoup plus à mon équivalent qui m'a dit qu'il a travaillé avec une société, plutôt que ce soit un influenceur qui est payé, ou plutôt qu'une marque.
Non, c'est vrai. C'est ce que d'ailleurs avait montré les pages comme Harley Davidson. Toutes les pages de passionnés comme Harley, Porsche, souvent, marchent très fort.
Bah oui.
C'est un peu ce que tu as fait pour les électriciens.
Exactement.
Tu les as retrouvés sur une communauté et tu as créé des contenus. Parfait. Et tu crois plus dans l'organique que le paid? Parce que c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, ils font payer beaucoup les sponsors.
Il faut les deux. Il faut les deux.
Il faut le mix des deux.
Oui, parce que, encore une fois, quand tu commences de zéro, s'il n'y a pas une forte campagne paid de recrutement...
Ça ne suffit pas.
Il faut l'avoir, parce que sinon, on reste invisible.
Ok, écoute, super. Alors on arrive plus de dernière partie du podcast. Alors ça, c'était plus tes goûts. Là, c'est la question que je pose sur les invités.
Ouais.
Là, je sors du digital, de l'e-commerce et tout ça. C'est tes goûts en matière de ciné, série, BD, musique. Voilà, c'est la question que je pose toujours aux invités.
Alors, mes goûts en termes de ciné, donc j'aime beaucoup le cinéma.
Oui.
Quelques films que j'ai bien aimé, qui m'ont bien marqué, c'est The Piano,
Jane Campion, ouais.
Exact, mais aussi Very Bad Trip,
oui.
Et puis aussi, à une époque, des films comme L'odeur de la papaye verte.
Ah oui, films asiatiques
aussi, des films iraniens, en fait, c'est très...
Et t'as pas cité de cinéma italien alors que t'es d'origine italienne?
Si, oui.
T'es obligé quand même.
J'adore le
Fellini
cinéma.
Fellini,
Monicelli, ou Benigni, oui.
La Vita est Bella, c'était un grand film quand même.
Hein. Oui.
Et tout ce qui est... Je pense à Nanni Moretti, tu penses quoi de lui? Il est un peu controversé, lui, non?
Oui, au fait, il est marrant, en fait. Enfin, il est grognon, on dirait, à chaque fois.
Ouais.
Et dans ses films,
image un peu comme ça, de gauche.
Oui, j'aime bien ses films.
Il a de la personnalité.
Oui, et Le Sol de l'Avenir, je ne sais pas si c'est le titre est comme ça.
Le Sol de l'Avenir, je n'ai pas tout vu de lui.
C'est le dernier qu'il a présenté à Cannes. Je n'ai pas vu, mais j'ai envie d'aller le voir. Par contre, j'étais voir récemment un film italien qui était vraiment bien. C'était La dernière nuit à Milan. Donc ça, je conseille.
Et ça, c'est qui a fait la réalisation, tu sais?
Je ne sais pas. Je sais qu'il y a Favino, un auteur italien.
C'était quoi l'histoire de La dernière nuit à Milan?
C'est une histoire policier.
Policier, un policier.
Mmh. Puis je suis originaire de Milan. Donc, Milan.
Et t'aimes bien aussi l'autre qui est très bon, c'est Sorrentino. Ah oui. Avec La Vita, La Grande Bellezza.
La Grande Bellezza.
Ça, c'était fort, ça.
La Mano di Dio. Mmh.
D'accord. Tu trouves un vrai rapport avec la France sur le... Il y a beaucoup d'Italiens qui bossent en France aujourd'hui. Tu es arrivé à quel moment en France, toi?
Moi, je suis arrivée il y a longtemps pour Erasmus à Dauphine. Je suis restée. Il y a beaucoup d'Italiens. Oui, il y a beaucoup d'Italiens à Paris, surtout dans le 6e. C'est le quartier de préférence des Italiens.
D'accord. Mmh. Bon. Parfait. Et là, sur musique ou séries télé, est-ce que tu as regardé beaucoup de séries depuis les Covid et tout ça ou...
Les séries, je suis assez classique. Friends, Sex and the City, mais qui est très vieux. Puis oui. The Crown, je suis...
Fondamentaux, quoi.
Ouais, oui. Et puis sinon, musique, Depeche Mode, j'étais au concert la semaine dernière. Queen, oui.
Queen, oui, les grands groupes d'avant, quoi.
Exactement. Et puis sinon, les livres, tu as...
Ah oui, livres, vas-y.
Alors, les livres, donc... Au niveau professionnel, il y en a certains qui m'ont marqué et que je conseille. Donc, un, c'est la biographie de Steve Jobs.
Ah oui, le Walter Isaacson, le book énorme pavé, là.
Un énorme pavé, mais que j'ai...
C'est une vie intéressante, en tout cas.
Oui, qui m'a été offert quand je suis rentrée chez Schneider Electric, avec une dédicace. On embauche des experts pour qu'ils nous disent quoi faire et pas pour qu'on leur dise. Et j'ai tellement aimé, et c'était tellement inspiring. Que
ah oui, cette phrase de Steve Jobs, ouais, elle est assez marquante, celle-là. On embauche des
experts pour qu'ils nous disent...
Ah oui, ils nous disent eux ce qu'on doit faire et pas l'inverse. Exact. Oui, c'est assez fort, ça.
Et ça, maintenant, en fait, je l'offre...
Je ne sais pas s'il l'appliquait vraiment, malheureusement, parce que ce n'était pas le modèle de management.
Vu certains...
traits de sa personnalité.
Par contre, aussi, il y en a deux autres que j'aimerais citer. Un, c'est la méthode d'Amazon, oui. Working Backwards.
D'accord. C'est qui l'a écrit, celui-là, la méthode
En fait,
d'Amazon
j'ai pas le nom, je peux retrouver si tu veux, mais en fait, c'est deux anciens d'Amazon, deux directeurs qui l'ont écrit. Et donc, ils expliquent leur méthodologie basée vraiment en fait, sur le customer-centric et qui partent de besoins clients. Et aussi, en fait, quand ils ont une nouvelle idée, ils partent avec un press release interne. Et vraiment, et après, au fait, revient en arrière. Et quand ils lancent, ils pensent de lancer un nouveau produit, il faut vraiment répondre aux 5 questions. Qui est le client cible, quel était son pain point et quelle est l'opportunité, quel est son majeur bénéfice et quelle est la source. Quelle est la source qui nous a dit qu'il a besoin de ça.
Pour toi, Amazon, c'est vraiment le best case en marketplace. Alors, toi qui es là-dedans, c'est vraiment...
Oui,
le...
oui, tout à fait. Enfin, aussi, tous les utilisateurs, ils disent l'expérience que j'aime le plus, c'est celle d'Amazon. Après, on a en fait un parti les deux. En fait, on est entre Amazon et Apple. Apple aussi, c'est un grand leader. Il sait vendre bien, en fait. Il est plus inspiring et... Et donc, on mixe les deux. Et le dernier livre, moi, j'ai beaucoup aimé, qui m'a été aussi très utile il y a 6 ans, c'est Le Data Marketing de Julien Hitch.
Data Marketing.
Data Marketing, oui. C'est,
Ça a été quoi ta leçon du data marketing?
En fait, il expliquait vraiment en fait, de façon simple, pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur, toute la partie au fait data lake, toute la récolte de la data, c'était un lien aussi avec le people-based marketing.
Parfait. Et alors la toute dernière question, Elena, c'est le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui veut travailler, on va dire, dans le monde de la transfo digitale, notamment.
Alors, le conseil que je donne, c'est plusieurs conseils. Être curieux, être curieux à 360, regarder tout, écouter tout et puis faire sa propre idée. Aller à l'étranger, mais je crois que maintenant, en fait, moi, à l'époque, quand j'ai fait Erasmus à Paris, c'était assez innovateur. Mais là, maintenant, en fait, aller découvrir aussi d'autres façons de travailler, de penser, c'est vraiment très enrichissant et puis être passionné par ce qu'on fait.
D'accord. En Italie, les villes qui sont très fortes en digital et en tech, tu mettrais, c'est quoi, c'est Milan, Rome?
Rome, je ne sais pas, mais je mettrais Milan.
Milan numéro 1.
Milan et puis peut-être Turin aussi.
Turin, ok.
Mais Milan en fait.
Ok. Eh bien écoute, Elena, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast.
Bah, merci à toi, c'était un grand plaisir et au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.